Pour commencer cette exploration en profondeur, après avoir exploré les libertés essentielles, donc ces 8 conditions qui nous offrent la liberté de pratiquer le Dharma, nous allons maintenant aborder un autre aspect fondamental, à savoir les 10 richesses particulières liées au Dharma.
C'est ça. Autrement dit, pour obtenir un corps humain réellement précieux, eh bien, il ne suffit pas d'être libre de certaines conditions défavorables. Il est aussi nécessaire de posséder un ensemble de qualités et de circonstances favorables, ce que l'on appelle les richesses.
Et ces richesses sont dites liées au Dharma, tout simplement, car elles concernent directement la possibilité de rencontrer les enseignements du Bouddha et bien sûr de s'engager sur le chemin de la libération.
Voilà. On distingue ainsi 10 richesses réparties en 2 catégories. Il y a 5 richesses intrinsèques qui dépendent de notre propre situation et 5 richesses extrinsèques qui dépendent, elles, de conditions extérieures.
Exactement. Dans cette partie, nous allons commencer par explorer les 5 richesses intrinsèques.
Oui, et c'est un point de départ fascinant.
Ah, ça c'est sûr. Et pour bien se représenter cette toute première richesse intrinsèque, faisons un petit exercice de pensée. Si on imagine l'animal de compagnie le plus choyé, le plus intelligent et, disons, le plus précieux du monde.
Oui, un animal qui vit vraiment dans un confort absolu.
Bah voilà, il vit au chaud, il comprend peut-être quelques commandes de base de son maître et il ressent très clairement des émotions. Mais maintenant, si on s'assoit en face de lui et qu'on essaye de lui enseigner un concept spirituel tout simple.
C'est peine perdue, oui.
Complètement. Si on lui demande simplement de réciter un mantra pour se libérer de ses souffrances, bah c'est physiquement, mentalement et même biologiquement impossible. Le canal de communication pour l'éveil n'existe tout simplement pas chez lui.
Et en fait, cette impossibilité fondamentale nous amène directement au cœur de notre sujet du jour. Nagarjuna, le grand philosophe indien, a résumé ces 5 conditions internes dans une seule phrase incroyablement dense.
Une phrase où chaque mot est une clé, oui.
C'est ça. Je le cite. « Un humain, né au centre, avec tous ses organes, un karma non contraire et foi dans le Dharma. » Et la toute première clé de cette liste, c'est ce que Nagarjuna appelle la richesse du support.
C'est-à-dire le fait de posséder une existence humaine.
Absolument. La nécessité de ce support humain, elle est absolue. Sans ce vaisseau spécifique, avec ses capacités cognitives et physiques, la pratique authentique est bloquée. L'exemple de l'animal qu'on vient d'évoquer illustre très bien la limite inhérente d'un support inférieur.
Même si cet animal vit au contact direct d'un grand maître éveillé, il ne peut ni saisir les mots, ni comprendre le sens.
Non, ni même articuler la doctrine.
Et d'ailleurs, le texte source propose une autre analogie, qui est encore plus frappante, je trouve. Ça dépasse la simple question du langage. C'est l'analogie de la survie face au froid.
Ah oui, cette image est très parlante.
Ouais, prenons un animal sauvage, même très majestueux, très puissant. S'il est confronté en froid mortel, une tempête de neige absolue, sa biologie prend le dessus. Mais il n'a pas la capacité de conceptualiser une solution à long terme. Il va simplement se recroqueviller, endurer et malheureusement geler sur place.
Alors qu'un être humain, qui est pourtant infiniment plus frêle, beaucoup plus vulnérable aux éléments, avec sa peau nue, eh bien, il va réagir d'une manière radicalement différente grâce à la nature de son esprit.
Exactement. L'humain va chercher une grotte, il va ramasser du bois mort, il va utiliser une pierre pour créer une étincelle, allumer un feu et se réchauffer les mains. En fait, il a cette capacité d'abstraction.
Il peut regarder un morceau de bois froid et y voir le feu potentiel.
C'est ça. Il se projette dans le futur. Et si on y réfléchit bien, c'est cette même mécanique intellectuelle, cette capacité de conceptualiser l'éveil à partir de la souffrance présente qui rend l'humain apte au Dharma. Parce que si on ne peut pas concevoir un feu pour survivre, on ne peut certainement pas concevoir la libération de son propre esprit.
La capacité d'abstraction, c'est en effet le moteur. Mais il y a un paradoxe super captivant dans nos sources concernant ce support.
Un paradoxe ?
Oui, parce que si l'intelligence est la capacité prime, on pourrait supposer que les êtres divins, les dieux de la cosmologie bouddhiste, possèdent un support bien supérieur au nôtre.
Ah, c'est vrai. Ils ont des corps de lumière, une longévité incommensurable. Ils vivent dans un confort absolu.
Et pourtant, ils sont considérés comme inaptes à une pratique spirituelle complète.
Mais pourquoi, je veux dire, pourquoi un être avec de telles capacités se retrouve-t-il bloqué sur le chemin de l'éveil ?
Le problème réside dans l'absence totale de friction. L'existence de ces dieux est tellement imprégnée de plaisirs constants et elle est tellement dépourvue de douleur qu'ils ne ressentent jamais le besoin de chercher une issue.
Ils sont trop bien installés, en gros.
Voilà. Pour générer ce qu'on appelle le renoncement, donc la volonté profonde de se libérer du cycle des existences, il faut ressentir l'insatisfaction de ce cycle. Les dieux n'ont pas cette urgence. L'être humain, lui, se trouve vraiment au point d'équilibre parfait.
Il ressent suffisamment de souffrance pour vouloir s'en échapper et possède suffisamment d'intelligence pour comprendre comment le faire.
Exactement.
Bon, du coup, le support humain, c'est le matériel idéal. Mais posséder ce matériel ne sert absolument à rien si l'on est largué au milieu d'un désert spirituel.
C'est clair. Et ça nous amène à la deuxième condition posée par Nagarjuna, naître au centre, ce qu'on appelle la richesse du lieu.
Et c'est là que j'ai besoin d'une petite clarification, parce que nos sources font une distinction très stricte entre le centre géographique et le centre dharmique. Qu'est-ce que c'est ce fameux centre géographique ?
Alors, historiquement et cosmologiquement, le centre géographique, c'est le trône de diamant. Il est situé en Inde, à Bodh Gaya. C'est le lieu exact où le Bouddha historique a atteint l'éveil. Et les textes décrivent cet endroit avec une dimension cosmique vraiment impressionnante.
Oui, il est dit que c'est là que s'éveillent les 1000 Bouddhas de notre cycle cosmique actuel, ce qu'on appelle notre Kalpa.
Tout à fait.
Ah, suspendu dans l'espace, totalement intact. C'est une image tellement puissante d'un point fixe absolu.
C'est magnifique, oui.
Mais voilà ce qui me perturbe un peu. Si ce lieu est le centre absolu et inébranlable, comment le texte peut-il affirmer que ce centre géographique est devenu périphérique par rapport au Dharma ?
En fait, c'est la différence fondamentale entre la géographie historique et la réalité spirituelle vivante. Le lieu physique existe toujours, bien sûr, mais au fil des siècles, le bouddhisme y a décliné. La région est tombée aux mains de ce que les textes nomment les Tirthikas.
Et les Tirthikas, ce sont bien les adeptes d'autres doctrines philosophiques et religieuses non bouddhistes. C'est bien ça.
C'est exactement le terme utilisé pour désigner les écoles de pensée extérieures à la voie bouddhiste. À partir du moment où les enseignements du Bouddha ne sont plus étudiés, pratiqués et réalisés dans un lieu, même si c'est le lieu historique le plus sacré du monde, ce lieu devient un désert spirituel. Il perd son statut de centre dharmique.
Je vois.
Un centre dharmique, ce n'est pas fait de terre et de pierre, c'est fait de la présence vivante de la doctrine.
Ce qui veut dire qu'un endroit sauvage, totalement périphérique sur la carte, peut soudainement devenir le centre absolu du monde spirituel. Et l'exemple que nos sources détaillent pour illustrer cette mécanique, c'est l'histoire incroyable du Tibet, le fameux pays des neiges.
Oh oui, le Tibet, c'est l'étude de cas parfaite. À l'époque du Bouddha, c'était une région considérée comme frontalière, complètement vide de toute transmission spirituelle. Sa transformation en l'un des plus grands centres dharmiques de l'histoire humaine, ça ne s'est pas fait par magie.
Ah non, ça a demandé l'ingénierie culturelle et spirituelle titanesque, et sur plusieurs générations. On ne parle pas juste de quelques moines qui traversent une frontière, là. Nos textes parlent de l'apparition de rois qui étaient littéralement perçus comme des émanations de Bouddha venus avec un vrai plan d'action.
C'est ça. Et le premier déclic mentionné a lieu sous le roi Lath Tothori Nyansen. L'histoire raconte que des objets sacrés sont tombés sur le toit de son palais.
Il y avait un moula tsatsa, non ? Ces petites empreintes d'argile sacrée et un texte de prosternation.
Exactement. C'est le premier contact. Mais c'est 5 générations plus tard que l'effort devient vraiment monumental, sous le roi Songtsen Gampo.
Qu'est-ce qu'il a fait de différent, lui ?
Eh bien, Songtsen Gampo a compris que pour importer une philosophie aussi complexe que le bouddhisme indien, il fallait une infrastructure intellectuelle qui n'existait tout simplement pas au Tibet. Il a donc envoyé son ministre, le traducteur Tesuni Sambhota, en Inde.
Et sa mission n'était pas seulement d'apprendre la doctrine.
Non, sa mission était de créer de toutes pièces un alphabet tibétain à partir des écritures indiennes.
C'est juste dingue quand on y pense. Imaginez un peu l'ampleur de la tâche. Devoir inventer un système de codage complet, une grammaire, un alphabet, simplement pour pouvoir commencer à importer le savoir. Sans cette étape, aucune des traductions massives qui ont suivi n'aurait été possible.
Absolument. C'est ce qui a permis de traduire les premiers sutras, qui sont les discours originaux du Bouddha, et les premiers tantras, qui contiennent les enseignements ésotériques.
Et ce roi ne s'est pas arrêté à l'intellectuel, d'ailleurs. Il a aussi ancré le dharma géopolitiquement en épousant une princesse chinoise et une princesse népalaise.
Oui, dont les dots comprenaient de puissants statuts sacrés, comme le célèbre Jeo.
Et il a quadrillé le pays de temples pour, je cite, « dompter le territoire », comme le temple de Rasachun Dlangnang.
Tout à fait. Et cet effort colossal a ensuite été parachevé par son successeur, le roi Trichesong d'Etsen. C'est sous son règne que l'infrastructure a été complétée. Il a invité 108 pandites, donc d'immenses érudits indiens, dont le légendaire Padmasambhava.
C'était pour consacrer le premier grand monastère, Samye, c'est ça ?
Avec des maîtres comme Vairocana, ils ont traduit non seulement les sutras, mais aussi les shastras.
Les fameux traités de commentaires philosophiques indiens.
Voilà. Et il a ordonné les premiers moines tibétains pour créer une communauté locale autonome.
C'est fascinant parce que cela démontre qu'un centre dharmique, cette fameuse deuxième richesse, c'est vraiment une construction humaine soutenue par une volonté féroce. Le Tibet est devenu le centre parce que des humains ont construit l'alphabet, ont traduit les textes et ont bâti les murs.
La conclusion de nos sources est très claire là-dessus. Puisque la doctrine a pris racine au Tibet dans ses deux aspects fondamentaux, c'est-à-dire la transmission textuelle par l'étude et la réalisation intérieure par la pratique, le Tibet est devenu de facto un pays central.
Très bien. Alors, résumons un peu notre position. Nous avons le support humain intelligent, nous sommes dans un lieu où l'infrastructure spirituelle existe et rayonne, mais que se passe-t-il si la personne ne peut pas percevoir cette infrastructure ?
C'est là qu'intervient la troisième condition.
Oui, Nagarjuna nous dit que la troisième condition, c'est d'avoir tous ses organes d'essence intacts, la richesse d'essence. Mais pourquoi la biologie devient-elle un critère de qualification spirituelle à ce stade ?
Parce que les sens sont l'interface directe de l'esprit humain avec le monde extérieur, et donc avec la doctrine. Nos sources précisent que l'absence d'un des cinq organes sensoriels bloque la réception complète du dharma.
Concrètement, ça se traduit comment ?
Sur le plan institutionnel, par exemple, un déficit sensoriel majeur est un empêchement pour recevoir les vœux monastiques complets. Parce que la transmission de ces vœux exigeait traditionnellement des interactions orales et visuelles très précises.
Ah oui, je comprends. Mais au-delà de l'institution, il y a aussi une dimension très phénoménologique dans le texte. Nos textes disent qu'il faut pouvoir voir les représentations du Bouddha pour éveiller la dévotion. Et qu'il faut pouvoir entendre ou lire les mots de l'enseignement pour pouvoir les analyser.
C'est ça, l'audition et la vue ne sont pas juste des outils pratiques, tu vois. Enfin, je veux dire, ce sont les conduits par lesquels la vibration de l'enseignement et les symboles de l'éveil pénètrent la conscience. Sans cette interface, les données spirituelles restent inaccessibles.
Donc, avoir ces sens intacts, c'est une richesse inouïe. C'est littéralement la capacité de télécharger la sagesse disponible dans notre environnement.
Merveilleusement bien dit.
Ce qui soulève un problème majeur, du coup. On a l'esprit humain, on est au bon endroit, et notre interface sensorielle fonctionne parfaitement. C'est un équipement redoutable. Mais avoir le meilleur équipement du monde, c'est désastreux si on s'en sert pour courir à toute vitesse dans la mauvaise direction.
Oui, et Nagarjuna appelle cette quatrième condition le fait d'avoir un karma non contraire. Autrement dit, la richesse de l'intention.
Comment on définit ce karma contraire exactement ?
Le karma contraire, c'est le fait d'utiliser cet équipement physique et mental pour s'opposer délibérément au dharma. C'est s'engager de manière répétée dans des actions négatives, qu'elles soient physiques, verbales ou mentales.
Le texte source illustre ça avec l'exemple d'individus qui naissent et grandissent dans des milieux où la violence ou l'inconduite sont la norme quotidienne. Il cite notamment le fait de naître parmi les chasseurs professionnels.
Oui, dont le métier implique de tuer constamment des êtres vivants, ou parmi les prostituées, selon le texte.
Et là, j'avoue que je ressens vraiment le besoin de clarifier quelque chose. Parce que ce passage peut sembler hyper déterministe, voire suggérer une sorte de fatalité liée au lieu de naissance. Est-ce que nos sources nous disent qu'une personne née dans une famille de chasseurs est condamnée spirituellement dès la naissance ?
C'est une nuance cruciale à apporter, tu as raison. Le texte utilise ces exemples pour illustrer des environnements où l'inertie vers l'action négative est extrêmement puissante dès le plus jeune âge. Cependant, le karma n'est jamais une fatalité figée.
Ouf, ça rassure.
Nos sources clarifient explicitement que le karma contraire englobe toutes les actions qui s'opposent au dharma. Et elle précise bien, je cite, « Même si l'on n'est pas né ainsi, on peut facilement le devenir par la suite. »
Ah, la menace n'est donc pas la profession de nos parents, mais nos propres choix quotidiens. Une personne née dans une famille d'érudits ou dans un centre spirituel peut tout à fait développer un karma contraire en utilisant son intelligence pour manipuler, mentir ou nuire aux autres.
Absolument. Le cœur de cette quatrième richesse ne réside pas dans le passé ou les origines sociales, mais dans l'intention présente. Avoir un karma non contraire, c'est posséder cette boussole éthique interne. C'est aspirer consciemment au bien.
c'est faire le choix de ne pas diriger ses capacités humaines à l'encontre des principes d'éveil. C'est vraiment une richesse d'action.
C'est tout à fait ça.
Et pour maintenir cette boussole dans la bonne direction, pour avoir la force de ne pas se laisser happer par l'inertie des actions négatives, bah, il faut un carburant, un moteur. Et c'est la cinquième et dernière richesse intrinsèque de la liste de Nagarjuna, la foi dans le Dharma.
Le texte la décrit comme la plus grande de toutes les richesses intérieures, parce que sans elle, tout le reste s'effondre.
La logique est implacable, en effet. Si on n'a aucune confiance dans le chemin ou dans le résultat de ce chemin, on ne fera jamais le moindre effort pour l'emprunter, même si on a l'intelligence, l'essence et qu'on vit juste à côté d'un temple magnifique.
Exactement. Mais il faut être très précis sur la nature de cette foi. Le texte prend grand soin de séparer la foi justifiée dans le Dharma de ce qu'il appelle la foi mondaine.
Quelle est la différence concrètement? Parce que si quelqu'un est profondément croyant, qu'il prie avec ferveur, n'est-ce pas suffisant?
Nos sources expliquent qu'on peut avoir une foi immense envers des entités extrêmement puissantes, comme des dieux créateurs, des nagas, tu sais, ces esprits liés à la nature et aux eaux, dans la cosmologie indienne, ou envers toutes sortes de forces extérieures. Mais la dévotion envers ces entités mondaines a une limite stricte.
Laquelle ?
Elle ne peut, au mieux, qu'apporter des bénéfices temporaires dans cette vie. Elle ne peut en aucun cas nous extraire du samsara.
Le samsara, donc, ce cycle infini et incontrôlable des renaissances, qui est conditionné par nos actions, est marqué par l'insatisfaction. Et aucune force divine extérieure ne peut nous en arracher par magie, c'est bien ça.
C'est pourquoi la foi dont parle Nagarjuna n'est pas une simple croyance aveugle ou de la superstition. C'est une confiance rationnelle et profonde qui est placée dans un système complet, les enseignements du Bouddha.
La certitude que cette méthodologie précise, donc l'étude de la doctrine et son application pratique, est l'unique moyen de trancher la racine de la souffrance.
Voilà. Cette foi-là est le moteur ultime qui active le support humain, l'intelligence et l'éthique vers un but définitif.
Prenons un peu de recul pour contempler ce qu'on vient d'analyser. On a décortiqué les cinq richesses intrinsèques. D'abord, le vaisseau humain, capable d'une abstraction que l'animal ne possède pas. Ensuite, le lieu central, cet environnement vivifié par l'effort humain, où la doctrine est accessible. Puis, nos organes sensoriels intacts, qui servent d'interface pour absorber cette sagesse. Ensuite, l'intention de ne pas saboter ce potentiel par des actions nuisibles. Et enfin, la foi justifiée dans ce chemin qui met toute cette belle machine en mouvement.
Ainsi, nous venons de voir les cinq richesses intrinsèques, c'est-à-dire celles qui dépendent de notre propre situation, de conditions intérieures. À présent, nous allons poursuivre avec les cinq richesses extrinsèques qui, elles, dépendent de conditions extérieures. Dans le prochain podcast, nous continuerons donc l'exploration des 10 richesses particulières liées au Dharma en abordant ces 5 richesses extrinsèques.
Et justement, avant de se quitter aujourd'hui, le texte nous exhorte à regarder à l'intérieur de nous pour vérifier si nous possédons ces 5 trésors. Et cela m'amène à une pensée troublante, une sorte de miroir tendu par nos lectures. Si notre intelligence humaine, d'une rareté absolue, et nos sens affûtés sont véritablement l'équipement ultime forgé pour nous libérer de toute souffrance, quelle proportion de notre énergie quotidienne passons-nous à utiliser ces outils magnifiques uniquement pour survivre au froid de notre quotidien, exactement comme cet animal terrifié dans la neige, plutôt que pour véritablement nous éveiller ?